sais que j'ai supprimé TikTok.
Ouais, c'est trop triste la vie sans TikTok.
Tu sais que j'ai réalisé qu'en une semaine, j'y avais passé 22 heures. Rien que lundi, j'y ai passé 4h20.
Attends, moi si je regardais mon temps d'écran, ça m'intéresse. Ouais, je passe 2 heures par jour sur mon téléphone en moyenne.
Mais tu sais que moi, j'y passe 4 à 5 heures par jour.
Bon, après, si t'enlèves les réseaux sociaux et les jeux, en vrai, il n'y a plus grand-chose à faire sur un téléphone. Hein.
Ces propos, tenus par un petit groupe d'étudiantes et étudiants à la cafétéria de l'Amphimax, m'ont fait réfléchir. Et moi alors ? Je me plains constamment de manquer de temps, mais ne serait-ce pas mon téléphone qui me le vole ? Voyons ça. Alors, paramètres... bien-être numérique... Ah voilà, en moyenne, 2h30 par jour. Ah ouais, quand même. Est-ce qu'il faudrait que je commence à me méfier de mon téléphone ? Vous écoutez l'Uniscope, un podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Dans cet épisode, nous allons interroger notre rapport à ce drôle d'appareil qui, sans crier gare, est pratiquement devenu un prolongement de notre main. Joël Bilieu est professeur de psychologie clinique à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne et chercheur au Centre de jeux excessifs du CHUV.
Un petit peu avant les années 2000, il y a eu les premières recherches qui se sont intéressées à ce concept d'addiction à Internet. Et c'est en fait la résultante d'un canular, c'est-à-dire qu'un psychiatre américain a décidé d'utiliser les critères qu'on utilise habituellement pour diagnostiquer des troubles d'usage de substances, et il les a appliqués à la manière dont il utilisait Internet, pour les emails, dans son travail, etc. Et sur cette base-là, il s'est auto-diagnostiqué addict à Internet. Et ce qui est assez singulier, c'est de voir que par la suite, très rapidement, des chercheuses et des chercheurs vont reprendre ces propos de Goldberg et parfois les citer, même sans mentionner qu'à la base, il s'agit d'un canular pour développer des questionnaires et des outils pour faire de la recherche sur cette nouvelle addiction, l'addiction à Internet.
Déjà, pour commencer, une addiction, qu'est-ce que c'est ?
Alors, l'addiction, elle fait référence à une utilisation problématique d'une substance psychoactive, c'est-à-dire une substance qui a un effet sur votre système nerveux central, donc votre cerveau. Il existe différents types de substances, elles peuvent ralentir l'efficience de votre système nerveux central, elles peuvent l'optimiser, ça c'est les stimulants, les autres c'est les dépresseurs, ou elles peuvent perturber l'efficience de votre système nerveux central. Donc un stimulateur, ça peut être de la caféine, de la théine ou des amphétamines par exemple. Un dépresseur, ça peut être des opiacés. Et puis un perturbateur, ça peut être des substances comme le THC qu'on trouve dans le cannabis ou encore les champignons hallucinogènes ou le LSD. Quand on parle d'une addiction, on parle vraiment d'un syndrome, donc d'un trouble mental qui est caractérisé par un certain nombre de critères. Les plus importants sont la perte de contrôle sur l'usage, donc. C'est-à-dire qu'on ne consomme plus au moment où on a décidé de consommer, on consomme plus que ce qu'on avait prévu pour des périodes de temps plus prolongées, ce genre de choses-là. On a aussi des phénomènes d'habituation et de manque qui sont vraiment aussi liés à l'effet de la substance d'un point de vue neurocérébral. Et là, l'habituation, c'est le fait de devoir, par exemple, consommer toujours plus pour avoir les mêmes effets. Et puis le manque, ben, c'est des symptômes soit physiologiques, soit psychologiques. Physiologique, ça peut être tremblement, sudation, des douleurs, etc. Psychologique, ça peut être une anxiété, des émotions négatives, l'irritabilité, etc. Pour parler d'addiction, il faut que la consommation, elle soit compulsive, donc non contrôlée, et qu'elle se traduise par des conséquences négatives dans votre vie quotidienne. Ça peut être la sphère professionnelle, ça peut être la sphère sociale, ça peut être la santé personnelle. Et on parle, dans ce cas-là, d'impact fonctionnel, c'est-à-dire que finalement, la consommation, elle va interférer avec votre capacité à fonctionner dans votre vie de tous les jours. Il y a déjà, dans les années 90, eu les premières propositions d'aller parler du concept d'addiction comportementale. Et les premières personnes qui se sont intéressées à parler d'addiction comportementale ont considéré des comportements comme le... À l'époque, on parlait du jeu pathologique, mais on faisait référence ici au jeu d'argent pathologique. Et d'autres types de conduites ont été considérées dans ces premières propositions, comme la kleptomanie, la pyromanie, comme des potentielles addictions, en fait. Et puis, beaucoup plus tard, en 2013, là, vous avez ce qu'on considère peut-être même comme un changement épistémologique, c'est-à-dire, pour la première fois, une addiction non liée à une substance va être inclue dans le DSM, qui est l'ouvrage américain qui répertorie les différentes maladies mentales et la manière de les diagnostiquer. Et là, c'est le trouble du jeu d'argent ou gambling disorder. Et à partir de là, vous avez eu une promotion de toute une série d'études qui vont considérer toutes les différentes conduites de la vie de tous les jours ou des loisirs comme des potentielles addictions. Parce que finalement, vous avez ce changement important qui est de plus avoir la substance psychoactive comme une nécessité pour parler d'une conduite addictive.
Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une addiction au smartphone ?
L'addiction au téléphone portable ou l'addiction à Internet ne sont pas des catégories reconnues comme étant des maladies mentales, même si parfois on a l'impression tellement on en parle comme des addictions, je suis addict à mon portable, etc. Il faut faire attention avec ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que en 2025, votre téléphone portable, vous l'utilisez pour toute une série de choses. Ça va de l'achat à la planification de vos vacances et à toute une série finalement d'activités de la vie quotidienne. Donc dans un sens, vous êtes dépendant au fait d'avoir un smartphone ou un téléphone portable. Je vous défie de fonctionner en 2025 sans téléphone portable. Donc déjà, d'aller parler d'une notion de dépendance ou d'addiction par rapport à un outil nécessaire dans le fonctionnement de la vie quotidienne, c'est déjà quelque chose qui est questionnant. Par ailleurs, un autre souci à mon sens, c'est la confusion entre l'outil ou la technologie et ce pourquoi cette technologie ou cet outil est utilisé. On peut faire plein de choses différentes à travers le smartphone. On peut faire des jeux vidéo, on peut aller sur des réseaux sociaux, on peut planifier nos vacances, on peut répondre à nos emails, on peut aller consulter des sites pornographiques, on peut faire des paris en ligne, on peut faire du streaming, regarder nos séries préférées, être sur des services de messagerie instantanée comme WhatsApp. Bref, on a une multitude de fonctions qui sont canalisées dans cet objet-là. Et parler d'addiction au smartphone n'a pas beaucoup de sens. Parce que le smartphone ou l'Internet, pour faire la comparaison avec l'addiction à Internet, sont finalement des technologies ou des vecteurs de comportements qui peuvent ou non être problématiques. Si je prends une métaphore, c'est un peu comme si vous dites, chez une personne qui a un trouble d'usage de l'alcool, elle est addict au verre. Il peut y avoir certaines utilisations du smartphone qui ont des caractères de la compulsion ou de l'addiction, mais en lien avec des activités spécifiques, comme par exemple le jeu vidéo ou le jeu d'argent ou la consommation de porno.
Pourtant, il existe un terme bien précis pour désigner ce phénomène, la nomophobie. Selon Wikipédia, la nomophobie ou mobidépendance est un néologisme désignant la phobie d'être séparé de son téléphone mobile chez les sujets dépendants au smartphone.
Il y a souvent des termes assez touchy qui sont utilisés pour définir des nouveaux troubles potentiels. Et ici, on parle de la nomophobie, effectivement, pour no mobile phone phobie. Donc c'est avant le smartphone que ce terme-là a été utilisé. Ce qui est assez, pour moi, frappant, c'est de voir que ce terme dans lequel on parle d'une phobie a notamment été utilisé pour parler d'addiction. Et c'est complètement, si vous allez regarder en psychiatrie ce que c'est qu'une phobie et une addiction, c'est très différent. Une phobie, c'est un trouble anxieux. Et une addiction, c'est un trouble externalisé de l'approche et de comportement dérégulé. C'est très différent. Et le traitement, par exemple, serait complètement différent de traiter une phobie ou de traiter une addiction. Alors ici, le terme est utilisé pour effectivement décrire la peur de plus être en lien avec le smartphone, du fait que ces outils, finalement, assouvissent toute une série de fonctions. C'est un terme que personnellement, je n'utilise pas, de la même manière que je n'utilise pas l'addiction au portable et que je vais plutôt parler d'un usage problématique, parce qu'elle ne va pas mettre une étiologie ou une cause spécifique derrière cette utilisation. On peut avoir un usage problématique si on a par exemple une insécurité dans nos relations affectives et autres et on a besoin de rester en contact, et peut-être que là on est plus proche de la nomophobie, on va dire, ou alors un usage problématique qui se traduit par des paris en ligne répétés, intensifs, incontrôlés, où là on serait plus proche d'une addiction finalement. Si vous avez le terme usage problématique, ça vous évite de coller une étiquette a priori, et puis en fonction de la situation, de voir quelle va être la meilleure explication pour rendre compte du comportement problématique.
Ok, mais alors, est-ce qu'avec mes 2h30 d'écran quotidienne, on peut dire que mon utilisation est problématique ?
Malheureusement, à mon sens, il y a vraiment un focus trop important sur cette notion de temps d'écran, parce que ce n'est pas tellement le temps d'écran qui est crucial, mais ça va être la manière dont vous utilisez les écrans, ce que vous en faites, et la manière dont vous êtes accompagné ou pas dans cette consommation d'écran, par exemple. Si vous êtes des enfants, ce n'est pas la même chose de laisser un enfant 2 heures en freestyle sur un écran pendant que vous faites autre chose, versus jouer avec cet enfant ensemble à un jeu vidéo où vous comprenez ce que la personne fait, pourquoi elle joue, quels sont les besoins assouvis par ce jeu, etc. Ou être en mesure, en tout cas, d'accompagner la conduite pour voir s'il y a de la confrontation à des contenus potentiellement inappropriés ou autres. La recherche met aussi en évidence que pour des activités médiatisées par les écrans comme les jeux vidéo, on peut, par exemple, avoir ce qu'on appelle un engagement intensif sain, c'est-à-dire jouer jusqu'à 2-3 heures par jour sans que ça se traduise par des conséquences négatives concrètes ou une souffrance. Hein, il faut savoir que les activités qu'on fait à travers nos écrans, ben pourquoi on les fait ? Parce que c'est des activités finalement qui vont nous permettre d'assouvir nos besoins fondamentaux en tant qu'individus, d'affiliation sociale, d'autonomie, de compétences, de pouvoir, etc. Donc c'est pas pour rien qu'on s'engage dans ce genre d'activité. Souvent on les réduit à des hypothèses dopaminergiques, les likes nous provoquent du plaisir, donc c'est pour ça, mais c'est beaucoup plus complexe. Et à mon sens, le fait que ces activités qu'on fait à travers ces technologies nous permettent d'assouvir nos besoins fondamentaux, c'est la clé qui explique aussi la manière dont les gens s'engagent dans ces activités-là. Et la notion du fait qu'on peut passer beaucoup de temps sur des activités médiatisées par des écrans sans avoir des conséquences négatives, pour moi, remet en question la validité d'indices comme le temps d'écran. Et on peut vraiment avoir des situations où un enfant utilise, je ne sais pas moi, 2 heures par jour son écran et ça a des conséquences très tangibles et négatives pour cet enfant, et un autre où ça ne va pas être le cas. Ça va dépendre de l'environnement, ça va dépendre de l'accompagnement et ça va dépendre de ce qui est fait évidemment sur l'écran.
Ok, un engagement intensif sain. Est-ce que cela signifie donc que l'utilisation intensive de notre smartphone n'a pas de réel impact sur nos capacités cognitives ?
Oui, alors c'est une très bonne question et c'est aussi une question complexe. En fait, il n'y a pas d'études, à ma connaissance, qui peuvent montrer des effets, par exemple, neurocérébraux de l'utilisation du smartphone, mais aussi parce que c'est compliqué de se mettre dans un contexte où on aurait une étude qui serait fiable. Parce que l'utilisation qu'on fait du smartphone va être très différente d'une personne à l'autre. Il faudrait comparer des personnes qui font la même chose sur leur smartphone. Parce que ce qu'on fait va mobiliser des capacités cognitives différentes. Si je fais un jeu vidéo qui me demande de réagir rapidement, je vais mobiliser mes capacités de traitement de l'information, voire mes fonctions exécutives. Si je suis en train de regarder un streaming, je ne vais pas du tout mobiliser les mêmes types de processus cognitifs.
Bon, alors, si le temps d'écran n'est pas un bon indicateur, à quoi est-ce qu'on peut se fier pour savoir si notre utilisation est problématique ou non ?
Je pense que plutôt que focaliser sur le temps d'écran, c'est peut-être plus intéressant d'aller voir le temps que vous passez sur chacune des applications. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire de manière assez aisée sur votre téléphone portable, que ce soit un Apple ou un Android ou autre. Vous pouvez avoir accès au temps que vous passez sur chacune des applications. Et ça m'est déjà arrivé, je dois dire, de supprimer certaines applications, typiquement des jeux pas très intéressants au final, mais qui étaient assez vite chronophages.
Alors, voyons voir ça. WhatsApp, 36 minutes. Les échecs, 33 minutes. Instagram, 2h09. Ah ouais, quand même. Chronophage, c'est bien le mot. Quand je pense à tout ce que j'aurais pu faire de ces 2 heures passées sur Instagram ce week-end. Pourtant, j'ai l'impression que j'aurais facilement pu m'en passer. Parfois, c'est vrai, je réalise même pas que je consulte Insta. Ou que si j'attends quelque part, ou que je m'ennuie, j'ouvre mes WhatsApp et je scrolle un coup. Est-ce que ça, c'est vraiment une utilisation qui est problématique ?
Alors, je pense qu'il ne faut pas confondre l'habitude et l'addiction, même si l'habitude a un rôle dans le développement des addictions. On est sans cesse sollicité par nos téléphones portables. Et si je n'ai pas prévu de ne pas réagir à cette sollicitation, la réaction de base, c'est quand on reçoit une notification de voir de quoi il s'agit. Étant donné que le téléphone portable canalise toute une série d'outils différents, une fois que vous réagissez à une notification, et ça, ça a été aussi démontré par certains travaux, notamment réalisés par des psychologues des médias, on va avoir tendance, quand on réagit à une notification, pas uniquement d'aller voir la source de la notification, mais ensuite, en fonction de nos habitudes, d'aller finalement consulter toute une série d'applications. Hein, typiquement, moi, je vais recevoir une notification liée à WhatsApp, par exemple, et sur cette base-là, juste après, je vais aller consulter mes emails, ensuite je vais aller voir ce qui se passe sous Blue Sky, et puis on a tendance à avoir des espèces de routines, et parfois même, on fait des espèces de boucles, où quand on a terminé de voir la dernière, on repasse sur la première, et on peut se retrouver à perdre beaucoup de temps finalement, et tout ça enclenché par une notification. Nos habitudes, elles sont aussi régies par notre environnement, et les téléphones portables, de nos jours, sont conceptualisés, les applications, hein, on parle de « design features » en anglais, on pourrait parler de caractéristiques de conceptualisation technologique, peut-être en français, mais ces applications, elles sont conceptualisées pour nous faire passer du temps sur le téléphone. Et c'est parfois même pour moi plus sensé de parler d'application addictive que d'addiction au téléphone portable en tant que tel. Ces caractéristiques de conceptuation technologique, elles sont faites pour tenter de vous faire perdre le contrôle finalement. Donc tenter de vous faire perdre le contrôle sur le temps que vous passez en ligne par différents moyens, par différents procédés. Évidemment, ça va être différent d'une application à l'autre.
Des habitudes chronophages, on en a tous. Mais à partir de quand est-ce que le chronophage irréfléchi devient vraiment une utilisation problématique ?
J'ai tendance à dire, mais c'est le cas pour finalement n'importe quel type de comportement, qu'à partir du moment où vous avez une souffrance psychologique subjective, vous vous sentez mal du fait de votre utilisation, vous avez honte, ce genre de choses-là, vous pensez que vous l'utilisez trop, et des conséquences négatives concrètes, des conflits concrets avec les proches liés à cette utilisation, par exemple, ou un impact délétère sur la qualité de votre sommeil, ou des choses de ce type-là, je dirais que ça peut être des indices qui pourraient refléter que vous avez une utilisation problématique de votre portable. Mais là aussi, ça va effectivement dépendre des personnes, parce que si vous êtes quelqu'un de très isolé, vous n'allez peut-être pas avoir des conflits avec vos proches sur votre utilisation, parce que justement, vous êtes isolé et vous pourriez être amené à avoir une utilisation très intensive sans que vous ayez ce genre d'interférence. Donc effectivement, les critères, ils vont devoir finalement être adaptés aux situations individuelles de chaque personne. Mais si on doit retenir juste deux choses, je dirais, voilà, la perte de contrôle sur l'usage et la souffrance psychologique subjective avec peut-être un effet en termes de conséquences négatives concrètes dans la vie quotidienne. Et à nouveau, cette notion d'interférence avec le fonctionnement standard.
Donc, le seuil de ce passage à une utilisation problématique du smartphone est finalement différent pour chacun de nous. Donc en fait, avec mes 2h30 d'écran par jour, mon utilisation est peut-être bien moins problématique que celle de mon collègue qui n'en passe qu'une au quotidien. Mais peut-être qu'elle l'est bien plus que celle de mon voisin qui, lui, en passe 5.
Dans beaucoup de cas de figure, les utilisations problématiques sont aussi finalement le reflet de stratégie que les personnes mettent en place pour faire face à des difficultés psychologiques ou à des problèmes qu'elles rencontrent dans leur vie quotidienne. Par exemple, si je suis déprimé, si je suis en souci, si je dois procrastiner, consommer de manière intensive, voire carrément dissociée en regardant des vidéos courtes ad aeternam qui vous sont finalement dispensées par des algorithmes qui fonctionnent assez bien, ça va être aussi une manière de réguler des affects négatifs, passer énormément de temps sur son smartphone de manière très passive. Donc voilà, on a finalement différents types d'utilisation problématiques qui vont dépendre de votre personnalité, de vos caractéristiques et puis des différentes utilisations que vous faites avec votre portable. Donc voilà, une explication, une étiologie, par exemple l'addiction ou autre chose, est finalement trop simpliste pour rendre compte de l'utilisation potentiellement problématique de quelque chose d'aussi complexe et multifactoriel que le téléphone portable.
Mais alors, comment mesurer et quantifier des perceptions qui, au fond, restent relativement subjectives ? En 2013, un groupe de chercheurs a créé une sorte de test pour mesurer ce lien de dépendance.
Elle s'appelle le Smartphone Addiction Scale, ou SAS. C'est une échelle de dépistage d'une potentielle addiction au smartphone. Et c'est une échelle qui a été utilisée dans des centaines, voire des milliers de publications scientifiques. Donc vraiment un outil psychométrique qui a un impact important dans la littérature scientifique. Il a été développé selon ce qu'on pourrait appeler une approche confirmatoire ou un biais confirmatoire. C'est-à-dire il est parti du présupposé ou de l'a priori que l'utilisation excessive du portable était une addiction. Donc les auteurs qui ont développé cet outil ont transposé les critères de l'addiction au smartphone. Donc ils ont pris des questionnaires qui avaient été validés dans le trouble d'usage de substances et d'alcool et simplement remplacé le terme alcool par le terme smartphone. Et donc vous avez des items qui vont évaluer des phénomènes comme la tolérance, le fait de passer plus de temps sur son téléphone portable progressivement pour être le reflet d'une habituation ou d'une tolérance à l'utilisation du portable. Donc là, on voit, on transpose le critère d'habituation qu'on a dans la substance, hein, parce que dans la substance, vous, effectivement, pour avoir le même degré de satisfaction ou d'euphorie, vous allez devoir progressivement consommer plus d'alcool, par exemple, parce que votre corps s'habitue à l'effet de la substance et une quantité plus importante est nécessaire pour avoir le même effet. Donc on voit ici, on transpose les choses. De la même manière, vous avez une transposition du critère de manque. Hein. Je ne suis pas bien quand je ne peux pas utiliser mon portable. Et en fait, le problème pour moi avec ce genre d'outils, c'est qu'on a une négligence des hypothèses alternatives. Parce que imaginez, vous êtes mal parce que vous n'avez plus votre portable. Est-ce que vraiment ça va refléter un manque au sens physiologique du terme? Ou est-ce qu'on peut trouver plein d'autres explications pour expliquer le fait que vous n'êtes pas bien? À mon sens, on peut en trouver plein. Déjà, vous avez besoin d'utiliser le portable pour fonctionner dans votre vie quotidienne. Donc si vous l'avez perdu, a priori, vous n'êtes pas bien. Deuxièmement, vous avez peut-être des activités qui vont vous permettre d'assouvir toute une série de besoins fondamentaux, d'échanges avec des proches ou des activités qui vous font plaisir. Donc simplement, comme vous ne pouvez plus l'utiliser, vous ne vous sentez pas bien. Ça peut se traduire par des émotions négatives ou autres. Et ça, c'est un point assez fondamental dans ce qui est souvent considéré comme le manque par rapport à des outils comme le smartphone. On n'a finalement que des indices psychologiques. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'anxiété, de la tristesse, de l'irritabilité, de la colère. Mais on n'aura pas des manifestations physiologiques comme sudation, des douleurs, et finalement des manifestations qui sont importantes dans les critères de manque tels qu'ils sont définis dans les addictions aux substances. Donc le problème pour moi avec ce genre d'échelle, c'est qu'elle mesure quelque chose, mais on ne sait pas très bien ce qu'elle mesure. Et souvent, les hypothèses qui sont sous-jacentes à des scores élevés à ces échelles ne reflètent pas forcément une addiction au sens strict. Un des risques, c'est de créer beaucoup de faux positifs, en fait. C'est-à-dire, c'est très facile de scorer de manière très élevée à ces échelles parce qu'on utilise le téléphone portable pour toutes nos activités dans la vie quotidienne. Et donc, vous allez avoir une proportion indécente de personnes qui, quand on utilise ces échelles, vont sortir comme « addicts », entre guillemets. Et il y a vraiment des publications qui vont vous dire « Voilà, on a fait passer le smartphone addiction scale à des étudiants de psycho, on a une prévalence d'un trouble d'addiction à 40%. » Et vous publiez ça dans une mauvaise revue scientifique qui ne s'est pas rendu compte que ces outils étaient mauvais. Et la presse va relayer et vous avez des articles dans la presse qui vous disent voilà, 15%, 20% des ados sont addicts. Et puis et voilà, ça crée des réels soucis ensuite sur la crédibilité de la recherche dans ce champ, d'une part, mais aussi de la manière dont ces résultats de recherche pourraient être mal utilisés et déboucher sur des paniques morales ou sur des craintes injustifiées ou sur des approximations.
Mais alors, est-ce qu'il y aurait une bonne manière de mesurer?
Oui, tout à fait. Alors, j'ai trouvé récemment une étude intéressante publiée par une équipe italienne qui se proposait d'aller voir les multiples impacts que peut avoir le téléphone portable, mais tant dans ses aspects positifs que dans ses aspects négatifs. Et plutôt que d'aller prendre des items qui mesurent l'addiction, ben voilà, ils ont été examiner la littérature existante, ils ont aussi fait des études qualitatives pour déterminer les types d'usages qui étaient faits par les personnes, en parlant avec des personnes, etc. Et je trouvais cette échelle intéressante parce qu'elle prenait, déjà, elle ne mesurait pas un construit homogène d'addiction, mais différentes facettes. Et vous avez par exemple des facettes comme la préférence pour les interactions sociales médiatisées par le téléphone, vous avez la perte de contrôle, mais la perte de contrôle, elle peut être due à différentes choses, pas forcément une addiction, ça évite de calquer le langage de l'addiction. Vous avez aussi ce qu'ils appellent « task support », dans quelle mesure le téléphone est utilisé pour supporter vos tâches professionnelles. Vous avez la perception de conséquences négatives, vous avez l'utilisation du téléphone pour réguler vos émotions. Bref, vous avez vraiment une panoplie de choses, et c'est intéressant parce que ça permet de faire des profils d'utilisateurs et d'utilisatrices, plutôt que d'avoir un espèce de score unique qui vous dit c'est problématique ou pas. Parce qu'il y a vraiment certaines de ces facettes qui sont fonctionnelles, et d'autres de ces facettes qui sont dysfonctionnelles. Et on a décidé ici, avec différents collègues, dont le professeur Peter Hilpert, qui travaille à la faculté de psychologie et qui est professeur en statistique, donc vraiment très 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 calé pour tout ce qui est analyse psychométrique et autres. Avec lui, on a adapté ces échelles en français et en anglais. Et on en a testé les qualités psychométriques pour promouvoir dans la littérature l'utilisation d'échelles justement qui ne sont pas caractérisées par ces biais confirmatoires ou qui vont forcément mesurer les choses à la lumière d'une addiction et qui vont permettre de mettre en avant à la fois les forces et les faiblesses de l'outil ou les utilisations fonctionnelles versus dysfonctionnelles. Bref, finalement, une approche plus multifacette et plus nuancée, on va dire.
Bon, et si en utilisant cet outil, je découvre que certains de mes usages sont problématiques ? Qu'est-ce que je peux faire? Comment faire pour avoir une bonne utilisation et un bon rapport à mon smartphone?
Alors, quand on parle d'utilisation adéquate du téléphone portable, il faut quand même savoir un certain nombre de choses. La première, c'est que c'est beaucoup plus difficile de s'empêcher de faire quelque chose, donc de réfréner un automatisme, par exemple, que d'implémenter des routines différentes. Et ça, je pense que c'est déjà un principe qui est assez intéressant à savoir quand on veut essayer d'optimiser l'utilisation du téléphone portable. Quand on reçoit une notification liée à quelque chose qui va nous intéresser, dont on aimerait savoir la nature, etc., ça va être très difficile de résister. Donc on a meilleur temps d'essayer de prémunir le fait que cette notification va arriver, en gros. Donc vous avez peut-être trois types de techniques ou d'approches qu'on peut utiliser pour optimiser l'utilisation de notre smartphone. La première, c'est dans le paramétrage. Ça va passer par des trucs très simples. Hein. Supprimer les notifications pour toutes les applications pour lesquelles ce n'est pas nécessaire, ou vous jugez que ce n'est pas nécessaire ou invasif. Paramétrer des moments où vous êtes plus dérangé, pendant la nuit typiquement, des modes silence, enfin tout le paramétrage ou surveiller le temps qu'on passe sur certaines activités. Donc il y a tout un versant qui est vraiment paramétrer l'outil pour essayer de réduire l'interférence que ce dernier va avoir dans votre vie quotidienne. Après, vous pouvez aussi aménager les contextes et les situations. Un exemple typique, plutôt que de dire à vos enfants « Non, on n'utilise pas ton téléphone portable maintenant » ou à votre conjoint « Oh là là, mais quand même, on est en train de manger avec les enfants, pourquoi tu l'utilises ?» Vous pouvez avoir des approches du type « Ben voilà, avant le repas, on met notre téléphone dans une box et puis comme ça, on n'est pas dérangé et puis on n'a pas besoin de résister parce qu'a priori, on ne va pas être tenté. » Et puis, vous avez des approches alors là qui sont plus individuelles. Parfois, chez les utilisateurs et les utilisatrices qui ont, pour le coup, des comportements problématiques, on peut essayer d'identifier des comportements alternatifs, mais qui permettent d'assouvir les mêmes fonctions. Par exemple, si vous utilisez le téléphone pour réguler votre colère ou réguler votre tristesse, ben peut-être vous pourriez identifier d'autres moyens non liés à l'utilisation du téléphone qui ont la même fonction, comme par exemple, je sais pas, aller courir un moment, faire un exercice de relaxation, manger un bout de chocolat, parler avec un ami, lire un livre. Ça va évidemment dépendre des personnes, mais à un moment donné, quand on essaye d'implémenter et d'anticiper à l'avance ce genre de conduite alternative, ça va être beaucoup plus efficace que de résister aux tentations quand elles sont présentes.
Alors, reprenons. Suis-je addict à mon smartphone ? Enfin, disons plutôt, est-ce que l'utilisation que j'en fais est problématique ? Alors certes, mon téléphone ne me quitte jamais, et mon temps d'écran me semble élevé, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucune application dont je ne pourrais pas me passer. Et comme l'a dit Joël Bilieu, le temps d'écran n'est au fond pas le meilleur indicateur. Mais j'ai quand même envie de creuser un peu plus. Alors, smartphone impact scale. Alors, première question, les autres me disent que je passe trop de temps sur mon téléphone. Non, tout à fait en désaccord. Parfois, j'ai des discussions avec ceux qui m'entourent au sujet de mon utilisation excessive du smartphone. Tout à fait en désaccord. Quand je suis en colère, utiliser mon smartphone me fait me sentir mieux. Oui, plutôt d'accord. Ça me change les idées, c'est vrai. Quand je me sens sous pression... Vous venez d'écouter un épisode de l'Uniscope, un podcast du magazine du campus de l'Université de Lausanne. Merci à Joël Bilieu, professeur de psychologie clinique à la faculté des sciences sociales et politiques et chercheur au centre de jeux excessifs du CHUV, de nous avoir partagé son expertise sur la question du lien au smartphone.